שיר זמי, השם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude sur Hanouka. Et les détails de la fête. Une des questions qui est soulevée par les commentateurs, la raison pour laquelle il n'y a pas de maserhet, de traité spécifique de Mishnah et de Gemara qui parle de Hanouka. Il y a six grands sdarim, et dans Moed, on parle de Megillah, par exemple, Megillah Esther, la mitzvah de Megillah, de la lecture de Megillah de Purim, il y a les dinim de Purim, ils sont marqués dans la Mishnah, alors que Hanouka est délaissé. Il est passé sous silence en tant que traité à part entière. Toutefois, le Hanouka elle-même, la fête de Hanouka est mentionnée à plusieurs reprises dans les Mishnayot. Mais Derech Agav, on mentionne le nom de Hanouka pour tel ou tel autre problème, mais pas en tant que fête à part entière. Et cette mention dans les autres traités, elle est derrière Agav. Donc il y a huit reprises, la mitzvah de Hanouka est mentionnée, ou le nom de Hanouka est mentionné dans les Mishnayot. Dans Maseret Bikurim, il est dit que jusqu'à quand on peut apporter les Bikurim et lire la paracha, jusqu'à la fête de Sukkot, et jusqu'à Hanouka on apporte, mais on ne lit plus. Hanouka est la limite. Dans Rosh Hashanah aussi, il est fait mention de Al-Shisha Hodashim Ashluchim Yotzim. On envoie pour informer la diaspora de la fixation du jour de Rosh Hodesh, à six reprises, pour six mois. Alors sur Nissan, pour Pessah. Av, pour le Ta'anit de Tisha B'Av. Elul, pour savoir quand est fixé Rosh Hashanah et Kippour. Elul, pour savoir quand est fixé Rosh Hashanah. Al Tishri, pour Takanat HaMo'adot. Al Kislev, et Al Kislev Mipnei HaHanouka. Donc ici, il est mentionné Hanouka. Dans Maseret Megillah aussi, il est mentionné à trois reprises, la fête de Hanouka est mentionnée. Donc on voit que c'est mentionné, mais derrière Agav, il n'y a pas un traité particulier. Et même dans Baba Kama, c'est mentionné dans la Mishnah, Getz Ayotse Mitahat Apatish. Il y a quelqu'un, le forgeron qui tape sur son enclume et il y a une étincelle qui sort de l'enclume. Alors, si ça cause un dommage, il est chayav. Après, à la suite de cette Mishnah, il est dit un chameau qui est chargé avec du lin et qui passe par la rue, et le fardeau du lin a pénétré un peu dans une des échoppes. Alors, s'il était allumé là, à cette échoppe-là, à la porte de l'échoppe était allumé la lumière, le nerf de Hanouka, alors à ce moment-là, et que ça a mis le feu, alors c'est le propriétaire du chameau qui est responsable. Si, parce que là, dans ce cas-là, le nerf était à l'intérieur, mais s'il a mis le nerf à l'extérieur, alors c'est celui qui a mis la lumière à l'extérieur qui est responsable. Mais non, si c'était le nerf de Hanouka, il est patour parce qu'il avait le droit de le mettre. Là, ici, c'est mentionné à Bener Hanouka patour. Donc ici aussi, c'est marqué à ce sujet que si l'incendie a été déclenché à cause de la lumière du nerf de Hanouka, c'est patour. Donc ici, c'est marqué. Donc c'est à huit reprises, il est mentionné. Certains commentateurs y trouvent une allusion aux huit jours de Hanouka. Mais la question reste entière. Pourquoi Rabbeinu HaKadosh, celui qui a ordonné, agencé les Mishnayot, qui les a codifiés, n'a pas trouvé utile de destiner une maserhet, un traité à part entière, pour traiter du problème de Hanouka. C'est une question qui commence à apparaître au XVIe ou XVIIe siècle. Ce qui accentue encore plus la question, c'est l'expression qu'emploie le Rambam quand il parle de la mitzvah d'allumer la Hanouka. Et il dit, mitzvah Hanouka, c'est une mitzvah haviva admeod, qui est très importante. Il lui donne une importance particulière. Et alors, si cette mitzvah-là, elle est, comme l'exprime Maïmonide, comme étant « haviva admeod », très chérie, très importante aux yeux de la population, même en soi, ces mitzvahs. Pourquoi donc Rabbeinu HaKadosh n'a pas jugé utile de lui consacrer un traité à part entière? Alors, cette question-là est mentionnée dans les Aharonim, 18e siècle. La première réponse qui apparaît, et celle qui est donnée dans les Sfarim, celle qui est donnée par Rabbi Abraham, le fils du Gaon de Vilna, et il dit, au nom de son père, que cette massichette-là, que cette, certes, certainement, il y avait de manière absolue, il y avait parmi les petites massertotes, il y a un certain nombre de massertotes qui sont appelées des petites massertotes, comme Maseret Tzitzit, Maseret Tfilin, Maseret Kala, des petites massertotes. Alors il y avait donc parmi ces petites massertotes qui apparaissent, ce sont des petites Michelin qui apparaissent à la fin, qui sont imprimées à la fin du chasse, il dit qu'il y avait aussi Maseret Hanouka, et que cette Maseret a été perdue au cours des galouillotes avec le temps. C'est ce que dit, donc il répond de manière absolue que Rabbeinu HaKadosh a consacré, certainement consacré, une Maseret qui a été perdue. Une autre réponse est donnée, rapportée au nom du Hatam Sofer, que comme les mitzvot qui étaient pratiquées, il y a des mitzvot qui étaient pratiquées de manière certaine, qui étaient diffusées, que les gens savaient qu'on fait cette mitzvah-là. Et alors cette mitzvah-là, elle était pratiquée déjà à l'époque de Rabbi. On n'a pas écrit, il n'était pas Rabbi, on n'a pas trouvé nécessaire de fixer une maserhet, puisque c'est quelque chose qui était, comme dit le Rambam, haviv, qui était adopté, aimé, et les gens y faisaient particulièrement attention, c'était pas nécessaire de lui consacrer une Mishnah à part entière. Ça, c'est une des réponses. Cependant, cette réponse-là paraît insuffisante, parce qu'il y a d'autres mitzvot, probablement d'autres mitzvot qui étaient pratiquées avec ferveur et enthousiasme, et auquel Rabbi a consacré une maserhet aussi. Dans la même idée, il est rapporté au nom du Chida qu'en vérité tous les dinim de Hanouka sont mentionnés à l'époque du temple. Il y avait ce qu'on appelle Megillat Ta'anit. Il y avait un recueil des jours de fête qui étaient consacrés, qui se sont perdus, mais qui étaient des jours qui étaient consacrés par rapport aux miracles qui se sont produits au cours des temps. Il y avait des jours de fête. C'est ce qu'on appelle Megillat Ta'anit, les jours où il est interdit de jeûner. Et dans cette Megillat Ta'anit, ainsi qu'elle est rapportée dans la Gemara, il y avait des Mishnayot qui traitent de Hanouka. Et dans cette Mishnah-là, il est mentionné des baraites, des enseignements qui concernent Hanouka. Donc tout, en fait, nous dit le Hida que tous les dinim étaient déjà inscrits et que comme ce recueil de dinim était connu de tous, donc il était diffusé, il n'était pas nécessaire pour Rabbeinu HaKadosh de consacrer, de faire double emploi, de consacrer une macérette qui aurait fait double emploi. Donc il n'était pas nécessaire à cela. Ce n'était pas. Parce qu'à l'époque de Rabbeinu HaKadosh, c'est vrai que plus tard, Megillat Ta'anit, Batlan Megillat Ta'anit, c'est-à-dire que c'est les jours de fête qui étaient consacrés pour les miracles, comme ils sont mentionnés dans Megillat, ont été annulés. Mais déjà à l'époque de Rabbi, cette Mishnah, cette Megillat Ta'anit était connue. Donc à son époque, c'était pas tombé dans l'oubli ni obsolète. Les gens pratiquaient tout ce qui était inscrit dans cette Mishnah. Donc c'est pour confirmer qu'il n'a pas voulu faire double emploi. Écrire un texte qui n'avait pas une utilité absolue. Dans le Sefer Chutam Shulash, il est rapporté au nom du Hatam Sofer, la raison pour laquelle Rabbeinu HaKadosh n'a pas fixé donc une maserhet, un traité particulier en souvenir du miracle de Hanouka, parce que Rabbeinu Yehuda Hanassi, il est descendant de la dynastie de David. Et puisque ce miracle-là a été fait par des Kohanim, Bet Hashmonaim, qui sont des Kohanim, et que ces Kohanim-là se sont accaparés la royauté, alors qu'ils auraient dû la destiner à David et aux descendants de David. Donc, c'est pour cette raison-là que, entre guillemets, pour régler les comptes avec les Hashmonaïm, Rabbeinu HaKadosh n'a pas trouvé cette manière-là en ne le consacrant pas une macérette pour le Nes de Hanouka. C'est comme si qu'il l'a rétabli ou qu'il a sanctionné les Hashmonaïm qui se sont accaparés la royauté de manière inapproprié. À ce sujet, on a questionné dans Shuta Riatz, Rabbi Yoshua Aaron Tzvi Weinberg. Quelqu'un lui a demandé que si c'est comme ça, il dit comment c'est possible que Rabbeinu HaKadosh, on peut attribuer à Rabbeinu HaKadosh, selon les dires du Chatam Sofer, un règlement de compte. Il règle les comptes avec les Hashmonaïm. Et donc, c'est assez étonnant de la part d'un personnage qui est qualifié par le Rambam. Rabbeinu HaKadosh est qualifié par le Rambam comme étant un homme d'exception, un sage qui englobe toute la sagesse et le savoir avec des qualités humaines exceptionnelles. Comment on peut lui attribuer une intention de régler les comptes avec les Hashmonaïm? Ça, c'est la question qu'on lui a posée. Et le Rav de lui répondre, au contraire. Le Rabbeinu HaKadosh, il a bien analysé les choses. C'est ce que veut dire le Chatam Sofer. Que Rabbeinu HaKadosh, certes, le début, le miracle de la fête de Hanouka est produit et est déclenché et réalisé par les Hashmonaïm, certes. Mais ce miracle-là, cette démarche-là, les a conduits à accaparer pour leur propre compte la royauté. Et donc il n'a pas voulu mentionner dans la Mishnah cette démarche, ce miracle, parce que les Hashmonaïm, à cause de cela, ils vont déraper quelque part. Ça, c'est la raison pour laquelle le Hatam Sofer a mentionné, il n'y a pas lieu de supposer que cette idée que mentionne le Hatam Sofer pourrait être considéré comme un Chilul Hashem par rapport à la démarche de Rabbeinu HaKadosh. Toutefois, à dire que les Hashmonaïm ont fauté en s'accaparant la royauté, C'est un avis. C'est certainement l'avis de Ramban dans Parashat Vayechi, quand il dit que sur le verset, quand Yaakov bénit Yehuda, il dit Lo yasur shevet Mehuda. Donc le sceptre de la royauté ne quittera jamais la tribu de Yehuda. Et le Ramban, là-bas sur place, mentionne la faute, entre guillemets, des Hashmonaïm, qui se sont accaparés la royauté qui revenait à David. Et c'est pour cette raison-là que toute leur descendance a, en fin de compte, au bout de 100 ans qu'a duré cette dynastie, toutes les descendants des Hashmonaïm ont disparu. Ça, c'est seulement, c'est vrai. Mais Rambam ne dit pas cela. Dans Maïmonide, quand il cite au début de Ilchot Hanouka, il cite le miracle et il dit que il valorise l'acte des Hashmonaïm qui ont rétabli la royauté, qui ont rétabli l'autonomie juive pour 200 ans. Donc lui, d'après Maïmonide, il n'y a aucune, a priori, c'est ainsi que le comprennent les Chachamim, les commentateurs, que selon Maïmonide, il n'y a pas de faute particulière sur le fait que les Hashmonaïm se sont proclamés rois et ont donné naissance à une dynastie qui a duré plus de 100 ans. Il y a un autre tirus qui est mentionné dans les poskim, le Sfat Emet, dans son biour sur Hanouka. Il pose cette même question et il explique que Hanouka, c'est une behina, c'est un concept. Hanouka est la fête consacrée, l'événement qui consacre, qui déclenche, consacré à la Torah orale, qui dévoile la Torah orale. C'est le concept même de la Torah orale. Et c'est à ce sujet que la Gemara dit que pourquoi y a-t-il une différence? Pourquoi n'a-t-on pas écrit le miracle de Hanouka? Pourquoi il est rapporté que Esther est considérée comme étant la fin de tous les miracles? La Gemara dit Esther, Tania, Esther sauf Kolanissim. Alors la Gemara demande Aïka Hanouka. Voilà qu'il y a Hanouka qui s'est passé longtemps après, près de 250 ans après. Alors la Gemara dit Nitan Lirtov Kamina. Ça veut dire que c'est Esther. Et le dernier miracle qui a été donné à être mis par écrit. C'est le dernier miracle qu'il est possible de mettre par écrit. Alors que Hanouka, il ne peut pas être mis par écrit. Ce qui signifie en réalité qu'il y a une Megillah de Megillah Tester qui est écrite par inspiration divine, fait partie des Ketubim. Alors qu'il n'y a pas cette dimension de Ketubim dans le Nes de Hanouka. Et c'est pour ça donc que le Nes de Hanouka, il est dans un niveau, il est dans une dimension de transmission orale. Donc de la même manière que l'écrit, il n'y a pas de Megillah de Hanouka, de la même manière, il n'y a pas, les dinim de Hanouka ne sont pas, on n'a pas consacré un texte qui allait être mis par écrit plus tard, la Mishnah, et de manière absolue. C'est-à-dire que si on avait inscrit la Torah, le concept de la Torah orale, c'est un concept que la Torah est tout le temps en mouvement. Elle est jamais, on n'arrive jamais à la codifier entièrement. Ça, c'est le concept. Plus on parle, plus on explique, plus c'est à l'oral. Et l'oral contient est un domaine vaste qui n'est pas donné de mettre par écrit. Parce que si on met par écrit, on a limité les choses. Et le concept même de la Torah orale, c'est un concept qui est oral. Pourquoi? Parce qu'il est le vecteur d'une idée ou d'un domaine, d'une sagesse qui est continuellement à renouveler, à innover, qui ne sera jamais mené à son terme. Donc c'est ça l'idée que le Sfat Emet veut indiquer par là. C'est pour cela qu'il n'est pas mis, qu'il n'est pas mis. Chachamim ont voulu maintenir pratiquement totalement le concept de Hanouka comme étant une Torah orale. Ça doit rester à l'oral. C'est une pratique, un enseignement qui reste à l'oral. Donc c'est, ça sous, ça indique, ça signifie que la Torah orale, qui débute d'ailleurs avec le par les Hashmonaïm, par l'événement de Hanouka, elle est impossible. C'est un concept qui est impossible de mettre par écrit. Une autre réponse est donnée par les Aharonim. Elle fait référence à la volonté, la demande formulée par Ptolémée au Chachmé Israël de lui traduire la Torah. Donc, il est dit là-bas, dans la Gemara dans Megillah rapporte qu'il a rassemblé 70 Chachamim qui ont traduit la Torah en grec. De sorte que lui puisse comprendre, etc., analyser. Rabbeinu HaKadosh, fort de cet enseignement, de cet exemple, s'est dit. Surtout, Rabbeinu HaKadosh vit au 5e siècle, et la domination romaine est totale. Et il pense que s'il met par écrit l'histoire de Hanouka, donc ça peut être consulté par les Romains. Les Romains peuvent regarder et peuvent ne pas trouver à leur gré que les Hashmonaïm se sont rebellés contre les dominants à l'époque, étaient les Grecs, etc. Donc, cette idée est de proposer que Rabbeinu HaKadosh a voulu occulter toute l'histoire de la révolte, de la guerre, de la mise en déroute de l'armée des Séleucides pour apaiser, pour trouver grâce aux yeux des Romains, de sorte que qu'il n'y ait que l'idée de rébellion ne traverse pas l'esprit des Juifs. Bien que nous avons déjà dit dans une autre occasion qu'il y a eu à cette époque-là trois rébellions de la part des Bnei Israël. En 66 avant l'ère chrétienne, la première révolte qui a duré 4-5 ans, qui va amener à la destruction du temple, du second temple, comme cela est mentionné dans la Gemara dans Gittin. Plus tard, en 112, en 115, il y a une autre rébellion qui est appelée la révolte des Tfutsot, Mereda Tfutsot, des Juifs à travers l'Empire romain. Et là, Chachamim nous dit que pratiquement 600 000 Juifs ont été massacrés. Et il y aura une troisième révolte qui va se passer à l'époque de Bar Kokhba, à l'époque de Rabbi Akiva, et qui va durer de 132 à 135, et qui va amener à la destruction totale du pays d'Israël et de la ville de Bethar. Cette destruction-là est aussi grave aux yeux des sages de cette époque que la destruction de Jérusalem et du Temple. Donc il y a eu des révoltes. Et c'est fort possible que pour apaiser, pour inculquer, rentrer une nouvelle idée, les Juifs, ils avaient l'idée de se rebeller, de retrouver leur autonomie, leur souveraineté à l'image, en regardant ce qu'on fait, suivant l'exemple des Hashmonaïm. Et c'est ça que les Chachamim ont voulu éviter. Du fait que ça a été trois échecs successifs qui ont coûté très cher, des millions, imaginons dans l'Antiquité, des millions de Juifs qui ont été massacrés en deux siècles, en un siècle, à peu près un siècle. Des millions de Juifs, donc c'est les impacts économiques, de difficultés, de dispersion, etc., ça a été terrible à cette époque. Donc c'est pour introduire le concept que à partir de 135, à partir de la mort de Rabbi Akiva et de la défaite de Bethar, la mort de Bar Kokhba et la défaite de Bethar, il faut à partir de là inculquer, enseigner un nouvel esprit dans le monde juif, c'est qu'on est soumis aux nations et que on perd que cette idée de rébellion constante, de retrouver la souveraineté, soit quelque peu oubliée et qu'on passe à autre chose, qu'on accepte d'être soumis aux nations. Et la Gemara va dire donc à la fin de Ktubot, la Gemara a dit Gimel Shvot Ishbia Akadosh Baruch Hu. Il est marqué à trois reprises, je vous ai fait prêter serment. Ishbati Etrem Benot Yerushalayim. Un des serments, c'est qu'on ne se rebelle pas contre les nations. Et c'est à partir de là que on va comprendre pourquoi le Sefer Maccabim, les textes historiques qui ont été écrits à l'époque des Maccabim, par les Chachamim, ont été mis de côté, ont disparu du grand public. On les a ganzu otam. On les a mis dans la gliza. Ça, c'est une. Il y a une autre raison aussi. Il y a une autre raison qui semble être la plus juste. C'est que, certes, les Hashmonaïm se sont rebellés contre les Grecs, contre la civilisation, contre l'influence que les Séleucides ont voulu apporter, l'influence de la civilisation grecque, qui a causé l'abandon des mitzvot. Les gens ont choisi de s'adonner au modernisme, en fait. C'est le modernisme contre et la Torah aurait été l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah serait considérée comme quelque chose d'obsolète. Alors qu'il y a le modernisme devant nous. Donc, ils ont voulu lutter contre cela. Donc, rétablir la lumière de la Torah. Et ne pas faire de compromis. Cependant, cette force, la force de Yehuda Maccabi, lui-même, il va aller à l'encontre de ses principes et il va contracter une alliance avec les Romains. Et ce qui va être reproduit à plusieurs reprises, l'alliance des Romains, les Romains ne viennent pas en Eretz Israël de leur propre chef, ils sont amenés par l'alliance que certaines fractions des Hashmonaïm vont contracter avec eux. Donc c'est eux qui les font venir. Ce qui va amener à la destruction du temple. Donc certains proposent comme raison que les Hashmonaïm eux-mêmes ont failli, ont trahi leur propre idéal en contractant cette alliance. Et il y a, pour compléter cette idée, il y a le fait que les Hashmonaïm, alors à la dynastie des Hashmonaïm, l'histoire des Hashmonaïm elle a duré, l'histoire de la guerre de Hanouka a duré 29 ans depuis le début de la prise de pouvoir, de contrôle de Antiochus, et après la rébellion, et depuis la rébellion jusqu'à la formation, le premier roi des Hashmonaïm, c'est Shimon. Et lui, donc il y a 25 ans, entre le début de la révolte jusqu'au moment où la dynastie des Hashmonaïm débute par Simon Ier, premier roi des Hashmonaïm, c'est le dernier frère vivant des enfants de Matatyahu, il y a 25 ans. Alors, eux-mêmes, ces gens-là, vont donner naissance, certains d'entre eux se comportaient bien, d'autres ont eu des attitudes exécrables. Et à cette époque-là, il y a plusieurs sectes, plusieurs, disons, fractions dans le peuple juif. Il y a ce que nous appelons les prouchim, les pharisiens, ceux détenteurs de la Torah orale, c'est les chachamim. Il y a à l'opposé les kohanim, qui ne croient pas, qui sont contre la Torah orale et qui veulent qu'on s'attache uniquement à la Torah écrite, les tzedukim. Et il y a une troisième secte qui prône la sainteté, qui sont descendants de Kohanim qui ont été exilés, les Hashmonaïm ayant pris leur place, ils se sont exilés, c'est les Esséniens de Masada. Mais à Kol Panim, il y a un combat d'influence entre les Prouchim et les Tzedukim, entre les Chachamim qui clament, qui diffusent la Torah orale, et les autres, les Kohanim qui veulent qu'on éliminer la Torah orale pour qu'on n'existe pas, c'est une invention des Prouchim et il faut s'attacher au texte écrit.
Cela pour des raisons politiques qui est de détenir le pouvoir, concentrer le pouvoir.
Et les rois des Hachonaïm vont être en partie des alliés de ces Tzedoukim et ils vont lutter contre les Hachonaïm jusqu'à les éliminer. Et le fils de Shimon ou le petit-fils va massacrer les Chachamim et jusqu'à pratiquement les éliminer. La Gemara raconte que son beau-frère Shimon ben Chattar avait peur de venir dehors parce qu'il a dit tu vas me tuer. Donc lui il avait déjà massacré, on dit qu'il a massacré 800 prouchim, il les a crucifiés de manière cruelle pour les éliminer parce qu'il était contre. Donc on voit bien que les Hachonaïm eux-mêmes n'étaient pas d'une grande qualité humaine et qu'ils sont pas, peut-être au début ils étaient des tzadikim mais après ils ont rapidement dérapé. Donc c'est là une des raisons. Et de plus, ils ont contracté des alliances avec les Romains et qu'ils vont, eux vont disparaître. Et c'est Hérode qui va prendre le pouvoir. Hérode lui-même a massacré les Chachamim. Et beaucoup, on a beaucoup de choses à leur reprocher. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu, peut-être, c'est là la raison fondamentale, pour toutes ces raisons qui se conjuguent, que Rabbeinu HaKadosh n'a pas voulu leur consacrer une place plus grande qu'il ne faut. Ça c'est l'idée. L'essentiel étant en vérité que la Torah orale se développe. C'est pas de leur fait que la Torah orale s'est développée. C'est qu'ils ont déclenché le développement de la Torah orale à cette période-là et les Chachamim vont prendre l'ampleur. Et le judaïsme qui va perdurer, qui va dépasser cette période et qui va arriver jusqu'à nos jours, c'est le judaïsme, c'est la Torah, c'est le judaïsme des Prouchim, des Chachamim, de la Torah orale. Et c'est l'essentiel. Et c'est à cela que fait référence, certainement, les huit fois où le mot Hanouka est mentionné dans la Mishnah. C'est ça, le concept du huit. C'est que c'est un concept d'éternité. Comme il dit, Az Yashir Moshe. Le mot Az, à valeur numérique, c'est le Maharal de Prague dit que le mot Az, c'est le seul mot qui se décline au passé. On peut l'utiliser pour le passé, pour le futur et pour le présent. Donc c'est un terme qui n'a pas de temps. Il a tous les temps. Donc il a un concept d'éternité. Az. La Gemara, il y a un Midrash qui dit, dans la tunique de Dieu, quel est le logo de la tunique de Dieu? Eh bien, c'est le mot Az, c'est-à-dire que c'est le concept d'éternité. Et Az a la valeur numérique de 8. Alors, le Zayin, c'est l'espace, c'est le 6, c'est le 6, c'est le Vav. Le Zayin, c'est le temps. Et le Aleph, il est au-dessus du temps. Il est au-dessus, donc c'est un concept d'éternité. Le 8, c'est la Torah, le Maharal lui-même dit que le 8e pasouk du psaume où il dit Torah atashem temiman meshivat nafesh, le pasouk où on parle de la Torah est placé en 8e position. C'est-à-dire que la notion de 8 transcende l'espace-temps. Et c'est ça le 8, c'est ça la Torah, le concept même de la Torah, comme nous l'avons expliqué, on peut pas le codifier. On ne peut pas il ne supporte aucune limite ni aucun. On peut pas mettre des murs et un cadre limité. C'est le concept d'éternité. C'est ça le concept, même l'idée même de Torah orale. Et c'est ça l'essentiel de Hanouka. C'est ça la lumière en fait. La lumière, c'est que comme dit le Zohar, Petar picha, ouvre ta bouche et que tes viahiru devaricha, et que tes paroles illuminent. C'est ça l'idée de l'allumage de la menorah. C'est ça l'idée d'allumer la Hanoukia. C'est ça l'idée du 8 qui est de cette image, de cette idée que l'on a à présent. On a construit, on a substitué le temple qui, l'institution de la nation juive qui est le temple, on l'a remplacé du fait des événements de l'exil par l'étude de la Torah qui a une dimension d'éternité. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.